Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Comme nous l'avons vu dans les 11 premiers chapitres, Jésus, jusqu'à présent, annonçait le royaume de Dieu et confirmait ses paroles par des miracles. Le Sanhédrin, qui fonctionnait comme l'autorité religieuse et politique suprême de son époque, ainsi que pour la Cour suprême, avait envoyé des délégations auprès de Jésus pour savoir ce qu'il en était de sa prétention messianique. Les Juifs attendaient le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, le Christ, en grec Christo, qui ne signifie rien d'autre que loin ou le Messie. Puisque les Juifs, en tant que peuple, ont rejeté Jésus en tant que Messie, ils attendent encore aujourd'hui la venue du Rédempteur promis, que la Bible appelle également Fils de David. Lorsque le Sanhédrin apprit qu'il y avait quelqu'un qui aurait pu être le Messie, celui-ci envoyait une première délégation pour observer cette personne et faire ensuite un rapport au conseil. Dans un deuxième temps, une autre délégation devait poser à la personne en question des questions permettant d'éclaircir la situation. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Sanhédrin devait décider s'il voulait laisser tomber l'affaire ou si d'autres mesures devaient être prises. Jésus avait accompli des miracles que, selon l'enseignement rabbinique, seul le Messie pouvait accomplir. Un tournant se produit alors, qui est expliqué dans ce 12e chapitre de l'évangile de Matthieu. Au début de ce chapitre, nous lisons que Jésus et ses disciples traversaient les champs. Comme les amis de Jésus avaient faim, ils ont arraché des épis de maïs et les ont mangés. Immédiatement, les pharisiens réagirent et les accusèrent d'avoir enfreint le commandement du sabbat. Mais ce n'était pas tout à fait juste. Les disciples enfreignaient la Mishnah, le commandement oral rabbinique, qui est un commandement humain, mais ils n'enfreignaient pas le commandement de Dieu. Jésus dit aussi, je cite, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Et flan, c'en était trop pour les pharisiens, qui se considéraient comme les gardiens de la loi religieuse. Jésus alla même plus loin dans sa provocation. Il rentra dans une synagogue, c'était toujours le sabbat, et il guérit un homme malade. Or, les pharisiens étaient bien déterminés à prendre Jésus en flagrant délit de péché, et ils posèrent à Jésus des questions épineuses pour pouvoir ensuite faire un rapport au Sanhédrin. En réalité, Dieu n'avait jamais interdit de guérir le jour du sabbat. Mais là encore, ce sont les scribes qui l'avaient interdit, sauf s'il y avait danger de mort selon l'enseignement rabbinique. Ici, nulle vie n'était en danger et pourtant Jésus avait guéri. Jésus s'oppose donc sciemment et activement à la tradition humaine. Cela a mis les pharisiens en fureur. Le verset 14 nous dit: mais les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui pour savoir comment le tuer. C'est le tournant. Mais comment Jésus réagit-il? Il poursuit son ministère de guérison un peu plus discrètement. Je cite: mais Jésus, l'ayant su, se retira de là. De grandes foules le suivirent et il les guérit toutes. Fin de citation. Bien sûr, il ne pouvait pas passer inaperçu car de nombreuses personnes le suivaient. Mais Jésus n'allait en aucun cas précipiter le cours des événements. Dieu, dans son infinie sagesse, avait prévu que son fils meure sur la croix à Pâques en tant qu'ultime sacrifice. Il ne devait pas être exécuté comme un homme ordinaire, mais comme le Dieu sans péché sous forme humaine qui s'est laissé crucifier en offrande pour les péchés du monde. Alors que Jésus guérissait et délivrait les gens des démons, il chassa un démon aveugle et muet. Comme nous l'avons vu précédemment, les scribes avaient désigné trois miracles qui ne pouvaient être accomplis que par le Messie lui-même. Jésus avait déjà accompli les deux premiers miracles dits messianiques. Celui-ci était le troisième, chasser un démon muet. Le peuple réagit avec étonnement et se demande si Jésus n'est pas le Messie. N'est-ce pas là le fils de David? Il demande. Et c'est là que ça se passe. Les pharisiens reconnaissent le danger pour eux-mêmes. Ils sentaient leur position basculer. Ils semblent bien avoir reconnu que Jésus était le Messie, le Christ, mais ils le nient parce que Jésus ne s'est jamais soumis à leur enseignement. Ils se considèrent comme les chefs religieux et rejettent la messianité de Jésus, car il est plus important qu'eux, et cela devint évident pour le peuple. Pourraient-ils nommer la raison de leur rejet? Non, cela aurait rendu leur hypocrisie trop évidente. Il leur fallait donc une autre raison pour se débarrasser de Jésus. La foule était sur le point d'accepter Jésus comme le Messie. La situation était délicate pour les pharisiens. Ils ont donc rétorqué que Jésus faisait tous ses miracles par la puissance de Satan. Ici, j'aimerais m'arrêter un instant et regarder de plus près cette accusation des pharisiens. En réalité, Jésus était Dieu incarné. Et tout ce qu'il a dit et fait venait de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'animait. Les pharisiens semblent avoir très bien compris. Mais parce qu'ils craignaient pour leur suprématie et avaient peur du peuple, ils ont étouffé la vérité jusqu'au bout en affirmant que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais un fils du diable. En fait, un antéchrist. Par cette déclaration blasphématoire, ils bloquent leur propre voie vers le salut, mais rendent également difficile à d'innombrables personnes de trouver leur Seigneur et par lui leur vie éternelle. Et c'est là que Jésus intervient et déclare que ce péché ne peut être pardonné ni sur terre ni dans l'éternité. Le voilà donc, le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit autour duquel gravitent tant d'opinions et de craintes. Les pharisiens savaient que Jésus était le Sauveur, mais ils l'ont rejeté. Le fait qu'ils aient reconnu Jésus dans sa nature divine n'était possible que par la puissance du Saint-Esprit. Mais ils ont résisté au Saint-Esprit et ont décidé de rejeter Jésus et d'amener le peuple au point qu'il le rejette également. Quiconque rejette Jésus, malgré sa connaissance, ne peut entrer dans la vie éternelle. L'Écriture nous dit clairement que tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Mais celui qui ne le croit pas, malgré l'avoir reconnu, le ciel lui reste fermé. Tous les péchés sont pardonnés par Dieu à ceux qui s'en repentent et acceptent Jésus comme leur sauveur. Mais celui qui rejette Jésus, tout en sachant qui il est, doit compter avec la damnation. C'est ce que Jésus dit ici. Il ne mâche pas ses mots, car pour susciter la repentance, nous devons connaître toute la vérité. Et il poursuit en montrant aux gens la sainteté de Dieu. Car rien n'est anodin. Nous avons besoin de son pardon et de sa grâce en toutes choses. Je trouve en fait extrêmement choquant qu'ensuite, certains chefs religieux disent à Jésus, nous pouvons le lire dans le verset 38, je cite, « Maître, nous voulons voir un signe de ta part. » Est-ce que ce n'est pas le comble de l'hypocrisie? Maître, comment peuvent-ils l'appeler maître et pourtant rejeter ses paroles avant même qu'il ne les ait prononcées? Et comment peuvent-ils demander un miracle puisqu'ils ont eux-mêmes été témoins de miracles même messianiques et l'ont rejeté tout de même? Jésus refuse et annonce sa mort et la prophétie selon laquelle il ressuscitera à la vie le troisième jour. Ce miracle-là sera comme le cachet de Dieu sur leur incrédulité. C'est terrible, n'est-ce pas? Comme il est atroce de rejeter sciemment et volontairement Jésus, le Fils de Dieu. On se souvient que Jésus avait chassé un démon aveugle et sourd. Il profite de cette occasion pour parler de l'état de la nation d'Israël. Je vais vous lire exactement ce qu'il dit. Je lis donc les versets 43, 44 et 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. » À son arrivée, il le trouve inoccupé, balayé, mis en ordre. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils y rentrent et ils s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. Fin de citation. Il s'agit là comme d'une parabole prise sur le vif. Israël était aveugle et muet comme un possédé qui ne pouvaient pas reconnaître Dieu. Maintenant, en se faisant connaître, Jésus a chassé ce démon aveugle et muet. Israël sait qui est Jésus, mais ne le laisse pas entrer. Jésus compare cette nation à une maison vide, balayée et ornée. Jésus reste dehors. Ensuite, sept autres esprits mauvais s'installeront et la situation d'Israël sera pire qu'avant. Sept est le nombre parfait. Ainsi, notre Seigneur illustre ce qui arrive à ceux qui le rejettent volontairement malgré leur connaissance de sa qualité de Messie. Auparavant, ils n'étaient pas capables de reconnaître Jésus, mais lorsqu'ils l'ont reconnu, ils l'ont rejeté, et ainsi ils font obstacle à leur salut. Cela a été historiquement préfiguré de manière très concrète. D'abord, Jean est venu et les gens ont été baptisés pour le pardon des péchés. Ainsi, leur intérieur est devenu propre, balayé quasiment. Mais cet intérieur est resté vide parce qu'ils n'ont pas laissé entrer Jésus. Nous savons ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont conquis Jérusalem et détruit le Temple. Nous connaissons les horribles persécutions dont les Juifs ont fait l'objet au cours de l'histoire et qui ont conduit à la dispersion du peuple d'Israël. Et nous savons qu'à la fin des temps, l'Antéchrist poussera à l'extrême son œuvre diabolique contre les Juifs. Tout cela fait de ce fragment de l'Évangile un chapitre sombre. Mais vers la fin, nous allons le voir, c'est comme si Jésus ouvrait une fenêtre qui laisse entrer la lumière. C'est quand les membres de sa famille viennent et l'envoient chercher. Dans le troisième chapitre de l'Évangile de Marc, nous apprenons que ses proches pensaient que Jésus avait perdu la raison, ce qui était donc très inquiétant pour eux. Et Jésus affirme clairement ici qu'il n'est pas du côté des liens familiaux, des traditions et des coutumes. Il est du côté de ceux qui le suivent avec un cœur pur. Luc 11, 27 et 28 dit ce qui suit à ce sujet, je cite. « Comme il parlait ainsi, donc Jésus, comme il parlait ainsi, une femme de la foule éleva la voix et lui dit « Béni soit le sein qui t'a enfanté et les mamelles que tu as sucées. » Mais il dit « Oui, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pour moi, ces mots semblent très clairs. Le culte de Marie, pensé en catégorie sociale, les attentes de la société, Jésus écarte avec toutes ces choses et avec tact et clarté et nous renvoie à ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire à notre appartenance à lui. Tout au long de sa vie, Jésus s'est rangé du côté de ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui cherchent leur salut en Dieu. Que ces personnes soient en Israël ou ailleurs sur cette terre. Alors qu'il nous fait déjà la grâce de le reconnaître comme le Sauveur, confions-lui notre vie et vivons selon sa parole. Passez un temps béni et à dans une semaine, j'espère.